Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats, d'opinions. À partir de 13h, comme tous les jours, vous avez la parole au 3210. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce mardi 9 août. Peut-être êtes-vous directement concerné par les incendies en cours dans le Maine-et-Loire, dans le sud de la Charente ou encore dans l'Aveyron. Là, ce sont 3000 personnes qui ont dû être évacuées la nuit dernière. Appelez-nous pour témoigner. Aux États-Unis, lundi, des partisans de Donald Trump. La résidence de l'ancien président américain en Floride a été perquisitionnée par le FBI. C'est une première et concernerait des documents qui n'auraient jamais dû sortir de la Maison Blanche. Dans ce journal également, la délicate opération pour tenter de sauver le beluga, le sortir de la Seine, le ramener en mer. C'est d'ailleurs notre question du jour sur RTL.fr. Comprenez-vous qu'autant de moyens soient déployés pour sauver le cétacé? Vous avez répondu oui à 52%, non à 37%. La météo, bonjour Anthony Kaczmarek.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Une journée identique à celle d'hier.
Oui, là on s'approche quand même du copier-coller, hein, avec toujours un temps sec, ensoleillé, très chaud, à peine un voile de nuages dans le sud-ouest et toujours ces orages en toute fin de journée sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et la montagne Corse. Encore ce vent de nord-est qui renforce le risque d'incendie dans la moitié nord et qui va souffler à 50 km/h en rafale cet après-midi. Et puis les températures, seul changement, elles repartent à la hausse encore. Hein. On gagne 1 à 2 degrés par rapport à hier. On partira de 23 degrés tout à fait respirable à Dunkerque pour aller jusqu'à 39 degrés à Cahors. Il fera 28 à Lille, 32 à Paris et Rennes, 33 à Strasbourg et Tours, 34 à Lyon et Marseille, 36 à Agen et 37 à Bordeaux et Toulouse. 4 départements pour l'instant en vigilance orange canicule, le Gard, le Vaucluse, la Gironde et le Lot-et-Garonne.
Merci beaucoup Anthony, à tout à l'heure pour un nouveau point à 13h.
RTL Midi.
Une évacuation de grande ampleur cette nuit dans l'Aveyron. Plus de 3000 personnes ont dû quitter leur habitation ou leur lieu de vacances à cause d'un incendie. Incendie déclenché par un engin agricole en fin de journée dont la propagation a été très rapide. Plus de 700 hectares ont déjà été détruits. Cela continue. Bonjour Patrick Tégéro.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial au PC des pompiers à Mostuéjouls. C'est toujours très impressionnant à l'heure où nous parlons, Patrick.
Oui, en effet. Vous savez, en arrivant ce matin, les gorges du Tarn semblaient envahies par la brume. Cette brume, c'était la fumée de l'incendie. En fait, c'était plutôt un bon signe, un signe qu'il n'y avait pas de vent. Mais vers midi, eh bien, la brume s'est levée, le vent est reparti, attisant les feux que l'on aperçoit dans les forêts adultes qui sont quasiment inaccessibles. Tout à l'heure, j'ai croisé le lieutenant-colonel Florian Soueris, qui dirige les opérations ici, qui me disait toute la difficulté qu'il y a à maintenir ce feu dans des zones totalement inaccessibles. Il y a des zones qui ont été brûlées, d'autres qui ne le sont pas. Le feu donc peut gagner par certains endroits et être maintenu à d'autres. Les petites rues de montagne, les petites routes de montagne sont actuellement envahies de camions de pompiers. Les relèves sont en train de se mettre en place. Les camions-citernes aussi alimentent les véhicules d'incendie. Une situation qui justifie pleinement, d'après les autorités ici, le maintien de l'éloignement des 3000 personnes évacuées dans la nuit. Rappelons qu'il n'y a pas de blessés, pas de dégâts matériels non plus, hormis le hangar agricole d'où est parti le feu hier après-midi.
Merci beaucoup Patrick Tégéro, pardon pour la liaison qui est de mauvaise qualité, mais on peut le comprendre avec les circonstances. Merci Patrick. Donc je rappelle que vous étiez en direct de Mostuéjouls. De très nombreuses évacuations, vous en parliez. Plus de 3000 personnes ont dû quitter leur habitation, leur camping éventuellement hier à cause de cet incendie. Et ce midi sur RTL, nous sommes avec Gabin Castro. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Vous êtes le gérant de La Cachette, c'est un complexe d'hébergement plutôt insolite à Rivière-sur-Tarn. Et vous faites partie de ces personnes évacuées cette nuit.
C'est ça, oui.
Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter?
Nous, on a fait très attention au feu qui était de l'autre côté de la montagne, plutôt en direction de Mostuéjouls. Les gendarmes sont quand même passés nous voir plusieurs fois pour nous prévenir de préparer nos affaires au cas où le feu viendrait de notre côté. Et c'est vrai que nous, on était en relation avec des personnes du coin qui nous disaient que le petit hameau juste de l'autre côté de la montagne avait été évacué un peu avant. Du moment où on a vu les flammes, nous, on n'a même pas attendu, on est parti tout de suite.
Oui, vous n'avez pas attendu le top départ des gendarmes, vous avez dit on s'en va.
Oui, on est parti. Dès qu'on a vu les flammes en fait sur notre côté de la montagne, on est parti tout de suite.
Vous avez pu partir avec quelques affaires. À quoi pense-t-on dans ces moments-là?
C'est vrai que c'est un peu compliqué sur le moment, on est un peu paniqué. On prend les papiers importants, les premières affaires qui nous viennent, voilà, les objets de valeur. Après, je vous avoue, on a fait au plus vite, hein, on n'a pas cherché à comprendre. On a fait vraiment au plus vite.
Alors, vous avez des chambres d'hôtes, je crois, particulières, puisqu'elles sont dans les arbres?
C'est des cabanes perchées, il y a une roulotte aussi. C'est des habitats qui sont essentiellement en bois.
Donc vous avez évacué également les vacanciers présents?
C'est ça, exactement. On les avait prévenus, on a attendu ensemble. Et puis dès qu'on a vu les premières flammes se rapprocher, on est parti tout de suite et on a prévenu tout le monde.
Et où avez-vous passé le reste de la nuit?
Alors nous, on a de la famille en fait du côté de ma compagne à Millau, donc on est parti chez eux.
Et les vacanciers?
Alors les vacanciers, certains ont pris un hôtel à Millau, d'autres sont directement rentrés, certains ont dormi dans leur voiture. Il y en a certains qui ne sont pas allés très loin, mais ils ont fait un peu comme ils ont pu. Vous savez qu'il y avait les gendarmes donc sur la route qui ont un peu indiqué aux gens les salles des fêtes, les endroits où en fait ils avaient ouvert des espaces pour accueillir toutes ces personnes qui ont été évacuées.
Quelle est la situation là à l'heure où nous parlons?
Alors,
c'est autour vrai que chez nous, surtout.
Autour de chez nous, en fait, les pompiers passent en fait là régulièrement. Ils surveillent. C'est vrai qu'il y a encore des fumées. Il y a encore quelques foyers qui sont actifs là sur notre côté de la montagne. Après, c'est pas les zones qui sont prioritaires, on va dire. Ils essayent d'éviter que ça s'étende déjà. Et puis après, nous, c'est vrai que de chez nous, ils peuvent venir intervenir au cas où si ça descende vers le village de Boyne.
En tout cas, vous avez pu rentrer chez vous ce matin.
C'est ça, oui. Nous, on est rentrés tôt ce matin. Alors, c'est vrai qu'après, ils ont fermé les routes pour faciliter l'accès des pompiers. On est passé juste avant qu'ils ferment les routes.
J'imagine votre soulagement quand vous avez vu qu'il n'y avait pas de dégâts.
C'est ça, hein. C'est vrai que hier soir déjà quand on a évacué, on est resté au village de Boyne jusqu'à à peu près 3h30 du matin, pour regarder de loin en fait l'avancée des flammes. C'était plutôt bon signe vu que ça avait pas l'air de descendre en fait vers le village. Donc on est déjà parti un peu plus serein que quand on a évacué. Donc on est revenu ce matin. C'est vrai qu'on était très soulagés de voir que ça n'avait pas avancé de notre côté.
Et vous êtes inquiet pour la suite de la saison? On est en pleine saison touristique, évidemment.
Ah, c'est sûr que du coup, on s'est rapproché des assurances, mais c'est assez compliqué. On va essayer quand même de maintenir nos réservations si du coup, quand même les conditions le permettent. C'est vrai que là, on est un peu dans le flou. On attend de voir. C'est vrai que on a des personnes quand même qui ont décidé de rester. On va voir l'avancée dans les prochains jours, là, comment ça se passe. C'est vrai que ça va être un peu compliqué.
Bon, on vous souhaite plein de courage pour ces prochains jours.
Beaucoup.
Merci infiniment d'avoir été sur RTL, Gabin Castro. Je rappelle que vous êtes le gérant de la Cachette à Rivière-sur-Tarn. D'autres incendies sont toujours en cours en France, notamment dans le sud de la Charente. Là aussi, 700 hectares ont été brûlés. Cela a entraîné l'évacuation de 1200 personnes. Dans le Maine-et-Loire, 600 hectares détruits dans la forêt de Pugles et une cinquantaine de personnes évacuées. Des bombardiers d'eau sont actuellement déployés.
RTL Midi, RTL Midi.
Le jeune homme de 18 ans qui a fauché deux enfants vendredi à Pontoise a passé sa première nuit en prison. La petite fille de 7 ans est toujours dans un état critique, plongée dans un coma artificiel. L'adolescent a reconnu les faits. Son avocat, Georges Parastatis, a pu évidemment s'entretenir avec lui juste avant qu'il ne soit incarcéré.
Pour le moment, il est catastrophé et il prie. Il prie pour que la petite fille aille mieux. La version des faits, c'est qu'il ne s'agit pas d'un rodéo. Un rodéo suppose d'autres participants ou suppose des gestes acrobatiques qu'il n'a pas commis. Pour lui, et je le pense aussi, c'est un accident de quelqu'un qui a conduit sa moto. Attention, je ne dis pas que c'est excusable, je ne dis pas que c'est justifiable, mais c'est autre chose qu'un rodéo. L'homme que je défends sera condamné et sera coupable d'avoir conduit une moto sans permis, mais ne sera pas coupable. Et je le défendrai pour de rodéo, c'est différent, c'est autre chose et ça change beaucoup.
Maître Parastatis, joint par Alice Moreno pour RTL. 40 ans, jour pour jour, après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, en hommage doit débuter dans quelques minutes. Le 9 août 1982, un commando ouvrait le feu dans une brasserie cachère. 6 personnes étaient tuées, 22 autres blessées. Malgré ces 40 ans d'enquête, il n'y a encore jamais eu de procès. Un seul suspect, un Palestinien extradé de Norvège il y a 2 ans, se trouve aux mains de la justice française. La hausse des pensions de retraite encore reportée. Les bénéficiaires devront attendre septembre pour voir concrètement les 4% d'augmentation sur leur compte en banque. La loi pouvoir d'achat n'a pas été promulguée à temps. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un effet rétroactif, mais cela n'empêche pas la déception des retraités que vous avez rencontrés à Rennes, Christian Panvert.
Joseph a 64 ans, cet ancien agriculteur est à la retraite depuis peu. Il comptait sur une augmentation de 40 euros.
Oui, une déception parce que l'inflation monte à une grande vitesse et puis le pouvoir d'achat va diminuer.
Annick a 90 ans.
J'ai eu 9 enfants, 6 petits-enfants, 18 arrière.
Et justement, elle espérait bien gâter ses enfants pendant les vacances. Cette ancienne nourrice, qui ne touche que 1400 euros, est furieuse.
Je fais pas de politique, mais bon, quand on promet quelque chose, on le fait, hein. Moi, quand je promets quelque chose à mes enfants, je le fais, puis c'est tout. Hein.
Georges, 76 ans, était conducteur de bus. Il espérait 50 euros de plus aujourd'hui.
Ben forcément, oui, ça met un peu de beurre dans les épinards, quoi. Ne serait-ce que pour acheter de l'essence, déjà. Enfin, tout augmente, d'ailleurs. Hein. Que ce soit l'électricité, le gaz et tout, quoi. Un petit plus, ça aurait fait du bien.
Hein. Il se veut fataliste.
Si c'est en septembre, ça va. Bon, si ce n'est pas le cas, ben ça fera une déception supplémentaire.
La date d'application n'a pas encore été annoncée, mais pas de panique, promet l'assurance retraite sur son site. Si le versement de la hausse prend plus de temps, il sera bien versé à titre rétroactif.
Le reportage de Christian Panvert à Rennes pour RTL. Pendant ce temps, la baisse du carburant se confirme. 4 centimes de moins en une semaine pour le gazole. Le litre de sans-plomb 95, lui, affiche 1,79€ en moyenne. C'est une baisse d'un peu plus de 1 centime. C'est l'opération de la dernière chance pour sauver le beluga égaré dans la Seine depuis une semaine. Nous retrouverons dans quelques secondes notre envoyé spécial sur place, Zoé Palier.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Midi 42 sur RTL. Rien ne doit être laissé au hasard avant le sauvetage du beluga. Cela fait maintenant une semaine que le cétacé est égaré dans la Seine. L'animal de 800 kilos doit être extrait du fleuve avec cet objectif, le soigner avant de le relâcher en mer. Vous êtes devant l'écluse Saint-Pierre-la-Garenne, Zoé Palier pour RTL. Bonjour à vous.
Et bonjour.
L'opération doit débuter cet après-midi. Zoé, opération très délicate.
Oui, et qui prend du temps. Il faut tout anticiper, réunir le matériel, préparer par exemple des serviettes mouillées pour que le beluga reste humide une fois sorti de l'eau, explique Lamia Essemlali, la présidente de Sea Shepherd France, qui échangeait ce matin avec ses équipes le long des berges.
Là, on est en train de travailler sur les derniers éléments logistiques, notamment par rapport à la boîte de transport. Le beluga est stable. Il n'est ni plus stressé, ni plus vif que d'habitude. Donc, il ne se doute pas de ce qui va lui arriver, mais on espère que tout ça va pouvoir être fait sans trop le stresser. Nous, notre appréhension, elle est surtout là, parce que c'est une opération qui est stressante. C'est quelque chose qui se fait dans le monde assez régulièrement, notamment dans l'industrie de la captivité, mais il y a des taux de mortalité importants. Et là, on a affaire à un animal qui est affaibli, donc ça augmente encore le risque.
Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que le cétacé sera transporté dans un camion réfrigéré entouré de vétérinaires. Il n'aurait pas supporté la vingtaine d'heures de trajet par voie navigable. Alors on ne connaît pas encore sa destination, mais on sait qu'il sera d'abord placé dans un sas, une sorte de bain d'eau salée, avant d'être relâché dans la mer s'il survit à l'opération.
Zoé Palier en direct pour RTL. Évidemment, on vous retrouvera tout au long de la journée pour nous faire vivre ce sauvetage. Merci Zoé. Donald Trump dénonce une persécution politique. Hier, sa résidence en Floride a été perquisitionnée par le FBI. Les partisans de l'ancien président des États-Unis se disent indignés. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Vous êtes la chef du service étranger de RTL. D'abord Bénédicte, que cherche le FBI ?
Des documents classés secret défense. Aux États-Unis, chaque président américain doit transmettre aux archives nationales l'ensemble de sa correspondance, de ses papiers, de ses mails. C'est la conséquence du scandale des écoutes du Watergate quand Nixon avait fait le ménage dans ses affaires après sa démission. Mais voilà, en quittant la Maison Blanche en 2021, en janvier 2021, Trump avait emporté avec lui ses cartons. On soupçonne l'ancien président américain de vouloir notamment cacher le rôle, son rôle, pendant l'attaque du Capitole. Trump ne voulait pas que les archives, apparemment, soient lues par la commission d'enquête parlementaire. 15 de ces cartons avaient déjà été récupérés en février dernier par les autorités. Et il y avait bien, à l'intérieur, des documents classifiés. On y a trouvé une correspondance avec le numéro 1 nord-coréen, par exemple, mais aussi des feuilles déchirées, rescotchées. Une journaliste du New York Times va même sortir un livre prouvant que Trump bouchait les toilettes de la Maison Blanche en jetant des lettres. Des photos viennent d'être publiées pour appuyer cette théorie.
L'annonce de cette perquisition, Bénédicte, a provoqué une immense colère chez les partisans de Trump.
Oui, et certains d'entre eux ont même débarqué en pleine nuit devant la résidence de Trump à Mar-a-Lago, en signe de solidarité, les conservateurs dénoncent une prise de pouvoir des démocrates pour empêcher Trump de se représenter en 2024.
Merci Bénédicte Tassard. Restez avec nous puisque nous continuons à parler de cette perquisition avec notre invité Nicolas Conquer. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous êtes le porte-parole de Republicans Overseas France, organisation reconnue par le Parti républicain. On a d'abord envie de vous demander comment vous avez appris et réagi en apprenant la perquisition chez l'ancien président Trump.
Alors, on a découvert ça au petit matin avec un effarement. On voit voilà, des faits avec une gravitude sans précédent. Véritablement, ça ne s'est jamais produit qu'une propriété privée d'un ancien président des États-Unis soit perquisitionnée de la sorte. Et ce, voilà, à plus forte raison dans un contexte électoral chargé, car je vous rappelle, on est dans une allée électorale avec les élections de mi-mandat qui arrivent en novembre prochain. Donc vraiment, qui crée un précédent, une jurisprudence où désormais, les anciens présidents pourront donc être perquisitionnés un peu au loisir du Congrès, de la justice, instrumentalisés par le parti en pouvoir en place. Et donc ça, c'est vraiment des pratiques qui, pour nous, sont condamnables et qui peuvent vraiment mener à des dérives pour justement s'interposer à ce qu'un candidat pressenti, à savoir Donald Trump, puisse se représenter en 2024 aux prochaines élections présidentielles, l'empêcher de se représenter.
Vous pensez que c'est politique, uniquement politique? Ce n'est pas parce qu'il est parti avec des documents dont il n'avait absolument pas le droit de
Alors,
la main dessus?
Ça sera un crime et on va laisser... de la même manière, on attend à ce que tout le FBI et le département de la justice saisissent de ces affaires. On rappellera que Hillary Clinton, c'est 33 000 emails qu'elle a détruits sans que ça soit instruit davantage. Qu'il y a encore le laptop, donc l'ordinateur de Hunter Biden, le fils de Biden, qui mériterait d'être investigué, d'avoir une vraie enquête en profondeur. On remarque qu'il y a un deux poids deux mesures, une espèce de complaisance vis-à-vis de certaines personnes et un acharnement, une chasse aux sorcières vis-à-vis de Donald Trump de par l'opposition et la menace qu'il va représenter au vu des prochaines élections à venir.
Bénédicte Tassard.
Oui, monsieur, vous, on ne va pas préjuger de ce que vont trouver les enquêteurs, mais on signale quand même qu'il y a un juge qui a signé la demande de perquisition. C'est pas uniquement le FBI tout seul.
Absolument. Donc là, ça met aussi en avant un risque potentiel d'instrumentalisation de ce département de la justice. Il y a un mandat qui a été signé par un juge. Ce mandat devra être rendu public et vraiment pointer de manière explicite ce qu'ils avaient comme présomption pour aller mener cette perquisition. Et en fonction de ce qui sera décelé ou non au cours de cette instruction, on compte sur eux pour avoir un dossier béton. Parce que sans quoi, il y aura vraiment des responsabilités à tirer et voilà, du tort qui sera fait, donc tant au ministre, au ministère de la Justice que ses services secrets que du FBI.
Nicolas Conquer, Donald Trump parle de persécution politique, les mots sont assez forts. Êtes-vous d'accord avec lui ?
Je vais reprendre ces termes en voyant que donc, les deux impeachments dont il a été victime, cette manigance télévisuelle avec ses auditions du 6 janvier ont eu pour seul but de vouloir porter atteinte à son crédit et de disperser sa base électorale en vue de prochaines élections. Il laissait présager un peu l'idée de se représenter. Au final, ces persécutions dont il est victime vont ne faire que renforcer sa base. À plus forte raison si, comme l'ensemble des affaires qui se sont présentées jusqu'à maintenant, le dossier s'est présenté donc vide de sens, avec aucun élément probant. Là, ce qu'on dit, Donald Trump, vous imaginez un instant en train de boucher les toilettes de la Maison Blanche avec des preuves. Enfin, c'est burlesque, pour ne pas dire risible. Ça n'a pas c'est au mieux un mauvais roman, mais c'est tout aussi cocasse que ce qu'on a pu entendre dans les auditions du 6 janvier.
Merci beaucoup Nicolas Conquer d'avoir été avec nous dans RTL Midi. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Republicans Overseas France, organisation reconnue par le Parti républicain. Au Mexique, cela fait 5 jours que 10 mineurs sont piégés sous terre. Impossible de savoir s'ils sont toujours en vie. Mercredi dernier, les victimes sont tombées sur une zone pleine d'eau dont l'effondrement a provoqué l'inondation des galeries. Les autorités préparent maintenant une opération avec un drone sous-marin pour permettre éventuellement aux sauveteurs de plonger dans cette mine. RTL midi 50 pour permettre une plus grande vaccination contre la variole du singe. Demain débute une expérimentation en pharmacie. 5 officines ont été sélectionnées, 2 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 à Paris et 1 à Lille. Objectif, booster le nombre de vaccinations, sachant que cela demande une logistique très très particulière, Odile Pouget.
Oui, parce que les vaccins doivent être transportés à très basse température et qu'ils doivent être administrés dans un délai de 14 jours après décongélation. Cela demande un effort du côté des grossistes répartiteurs qui livrent les officines et de l'organisation, comme l'explique Philippe Besset, président de la Fédération des pharmaciens d'officine.
Donc il faut qu'ils s'équipent de frigos à moins 80 et ensuite qu'on arrive à prendre des rendez-vous en nombre suffisant pour pouvoir avoir au moins 20 vaccinations dans les 2 semaines puisque les boîtes sont de 20 doses.
L'expérimentation doit durer 15 jours et si c'est concluant, 1 millier d'officines pourraient se lancer dans l'aventure.
Alors vous le disiez Odile, logistique très délicate. Il y a d'ailleurs eu une rupture de la chaîne du froid à Paris, ce qui oblige certaines personnes à revenir pour une injection.
Oui, tout cela à cause d'un réfrigérateur défectueux. Ce très gros centre situé dans le 13e arrondissement de la capitale, fermé depuis jeudi, a rouvert ses portes ce matin. Aucun risque, aucune toxicité pour les quelques 500 personnes vaccinées entre le 2 et le 4 août, avec ces doses mal conservées, mais par sécurité, elles doivent se refaire vacciner. Et même si elles sont prioritaires, c'est une très grosse perte de temps, car les créneaux sont très rares. En Ile-de-France, j'ai tenté l'expérience ce matin, le premier rendez-vous possible est le 13 octobre à l'hôpital Henri Mondor d'or de Créteil. Et pour l'instant, seuls 10% des 250 000 personnes ciblées ont reçu une injection.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Odile Pouget du service qualité de la vie de RTL. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, la mort d'Issey Miyake, le créateur de mode japonais. Il avait 84 ans. Pendant plus d'un demi-siècle, Monique Younes, il a sans cesse innové dans le milieu de la haute couture.
Oui, il avait le goût de l'innovation et des matières, Issey Miyake. Il adorait froisser, tordre, twister des tissus de toutes sortes pour en faire des vêtements. On l'appelait d'ailleurs le couturier volant, à cause de sa ligne Pleats Please, en français, déplie s'il vous plaît, parce qu'il avait à la fin des années 80 mis au point une technique pour plisser les tissus et les assembler en robe, pantalon, chemise, veste d'une simplicité et d'un confort extrême qui glissait sur le corps comme en apesanteur et donnait l'impression d'une démarche élastique. Alors en privé, Issey Miyake était plutôt un homme discret qui ne donnait pas beaucoup d'interviews et il parlait pourtant un français impeccable. Il évoquait aussi très rarement son enfance à Hiroshima, où il était né en 1938. Il avait 7 ans quand la bombe atomique s'est abattue le 8 août 1945 sur sa ville. Alors sa mère est morte brûlée à 50% et lui-même a été atteint d'une maladie osseuse qui va le laisser entre la vie et la mort pendant plusieurs mois. Mais loin de l'abattre, cette épreuve lui donne la rage de vivre. Et Issey Miyake va étudier la couture au Japon. Il va arriver à Paris en 1965 pour faire ses armes chez Guy Laroche et Hubert de Givenchy. Et c'est là qu'il va forger son style. Un style minimaliste et sculptural, des lignes épurées, zen, qui vont l'introniser comme un des pionniers de la mode japonaise en France. Une mode tellement avant-gardiste que la presse désemparée va le surnommer à l'époque le péril jaune. Vous voyez, et il n'était pas le seul, tous les couturiers japonais de l'époque ont été surnommés le péril jaune parce qu'on ne comprenait pas leur mode tellement zen. Et en 1999, Miyake estime avoir tout dit. Il va laisser la direction artistique de sa maison de couture à ses assistants pour que la jeunesse s'exprime, il disait joliment. Et son nom, Issey Miyake, signifie en japonais 3 maisons et une vie. Et quelle vie!
Magnifique. On dit bien Pleats, donc.
Pleats.
Pleats, please.
Voilà.
Merci beaucoup. Monique Younes du service culture de RTL. À partir de 13h avec vous, nous parlerons d'une autre personnalité qui s'est éteinte hier, Olivia Newton-John.
Elle avait 73 ans, elle s'est battue pendant plus de 30 ans contre le cancer. Son rôle de Sandy dans Grease, aux côtés de John Travolta, restera mythique. Si vous souhaitez lui rendre hommage, nous faire partager vos souvenirs sur ce film musical, appelez-nous, n'hésitez pas, au 3210. Dans un instant, on teste un nouveau métier, évidemment, avec un journaliste de RTL. À tout de suite.
Au 3210, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. RTL, en immersion.
Et oui, c'est l'un de vos rendez-vous de l'été sur notre antenne. Les journalistes de la rédaction changent de métier le temps d'une journée. Vous avez entendu trufficulteur, secouriste, grutier, pilote d'avion. Eh bien, c'est votre tour, Pierre Herbulot, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, gourmand comme on vous connaît, Pierre, vous n'avez pas pu vous empêcher de prendre la direction d'un restaurant, et pas n'importe lequel, s'il vous plaît, la Villa Madi à Cassis, récompensée cette année par une troisième étoile au guide Michelin. Vous y avez joué le rôle de serveur, Pierre.
Oui, c'est ça, pour tout le service du déjeuner. Alors, je suis allé côté brasserie parce qu'il n'était vraiment pas question que je mette en péril la réputation du restaurant gastronomique avec un service éventuellement maladroit. J'ai enfilé mon polo de serveur et j'ai rejoint l'équipe d'Adélaïde Cantrel, la responsable de la brasserie du Corton.
Oui, c'est ça, c'est moi qui vais te gérer, t'expliquer un peu comment ça se passe. Là, on est sur 50 couverts ce midi à l'intérieur.
C'est beaucoup ou pas ?
L'intérieur, c'est complet.
Okay.
Si on était en extérieur, on serait monté quasi à 70.
Qu'est-ce que tu me conseilles ? Peu de souriant, j'imagine. Il y a voilà. Les trois règles.
Les règles, bah, toujours madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Et du coup, voilà, toujours le sourire, ça c'est vraiment important. Tout qui s'enchaîne, voilà, on donne les cartes. On propose des apéritifs, on sert l'eau, après on retourne à la table, on prend la commande et là ça s'enchaîne. Après okay. Les premières entrées sortent et après il faut faire le suivi de la table.
Il faut avoir des yeux partout.
Voilà, c'est ça.
Moi, ça va bien se passer.
Je pense que ça se passera bien. Bon. Il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. Les filles, on peut prendre deux secondes pour faire le petit brief. Donc du coup, il y a des bons cadeaux ce midi. À la 32, on a un bon cadeau menu de la semaine.
Ça, c'est le traditionnel briefing d'avant-service. Avant que ça commence, j'ai juste le temps d'apprendre les numéros des tables.
On commence ici, en fait, à la 20, 21, 22, 23, 24, 25, et là, ça sera 26.
Et puis, évidemment, le contenu de la carte.
Voilà, donc on a 4 entrées, 4 plats au choix. Et là, en fait, c'est notre menu de la semaine. Il change toutes les semaines. Donc cette semaine, on est sur le macaron d'escabèche, le magret de canard et la tarte à l'abricot. Madame, monsieur, bonjour.
Midi et 30 secondes, les premiers clients arrivent déjà.
Alors voici, je vous appose donc les petits toasts pour débuter. Focaccia, donc maison avec pissaladière.
Alors jusqu'ici, j'ai suivi Adélaïde. Mais bon, il faut bien se lancer.
Il y a la 23 qui est prête, c'est ça ? Je peux essayer ?
Ouais.
Je mets pas les doigts sur l'assiette, j'imagine ? Comme ça ?
Ouais.
Messieurs, dames, la bruschetta, c'était pour vous, madame ?
Oui, merci.
Voilà. Et le tartare.
Parfait.
Bon appétit.
Merci.
Bonjour, monsieur, dame. Je me mets dans la peau d'un serveur pour la journée.
Excellent idée.
Je suis venu au bon endroit.
Je me mets dans la peau d'un client.
Alors, je suis dans mon rôle. Est-ce qu'on a pris votre commande ? Pas encore ? Si, c'est bon. Oui, bonjour, messieurs, dames.
Merci.
Je peux vous débarrasser ?
Vous pouvez me dire ce qu'il y avait sur le maquereau ?
Alors, il y avait des navets et il y avait des carottes aussi en pickles.
Ouais, c'est navet.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Alors là, je prends une vraie leçon de service parce que je suis là à courir dans tous les sens et je vois Adélaïde en toute décontraction qui abat deux fois plus de travail. C'est un métier.
Alors, comment vous en êtes sorti justement, Pierre ?
Alors, c'est la première chose que j'ai demandé aux clients après leur carte bleue pour l'addition, bien sûr.
Vous êtes un grand timide, mais tout va bien. Vous avez été très déférent, très sympathique.
Bon, je n'ai même pas trouvé que vous étiez trop timide, c'est très bien. Non, non, c'est parfait. Moi, je trouve que vous avez été très à l'écoute, très appliqué, et voilà, c'était très bien.
Ils disent ça, et en même temps, ils ne m'ont pas laissé de pourboire, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il faut en conclure. Bon, en tout cas, c'était les derniers clients. Ils viennent de partir. Les tables sont nettoyées. Il est 15h42, l'occasion de débriefer avec ma patronne du jour.
Moi je suis crevé là.
C'est de midi à 15h, enfin, je trouve ça assez lessivant quand même.
Oui, c'est ça, mais après encore là c'est pas fini, il y a encore tout à redresser pour ce soir. Après on est habitué, c'est tous les jours comme ça. Puis après il faut se redonner un petit coup de motivation parce qu'il faut tout mettre en place pour ce soir.
Comment tu m'as trouvé ?
J'ai trouvé pas mal, hein.
C'est vrai ?
Tu vas pas faire la saison avec nous ?
Malheureusement, j'ai encore des obligations à RTL, mais non, c'est vrai, ça s'est bien passé.
Non, ça s'est bien passé. En plus, t'as pris l'initiative, du coup, débarrassage, redressage. Non, c'était franchement pas mal.
Bon, bah merci beaucoup. En tout cas, pour tout, Adélaïde.
Merci aussi à toi.
Bon, bah on a compris, Pierre, vous restez avec nous.
Oui, mais je me suis quand même renseigné sur le métier. C'est bien de faire une école hôtelière, mais pas indispensable. Le salaire minimum commence un peu au-dessus du SMIC, sans compter les pourboires, mais ça monte vite autour des 2000 euros net en grimpant dans les échelons. Après, vraiment, c'est un métier qui est dur physiquement, mais alors quel plaisir quand on tombe sur des clients sympas, et surtout quand on les voit heureux de passer un bon moment et de manger des belles choses.
RTL Immersion signée Pierre Herbulot, à retrouver évidemment sur le site rtl.fr ou notre appli RTL. À tout de suite pour les auditeurs ont la parole.
RTL Midi.